Ces gens qui font la différence, avec Sophie Stanquet.
Mesdames, Messieurs, bienvenue à Ces gens qui font la différence. Aujourd'hui, Jérôme Bobin, directeur général d'Handicap International Canada, sera avec nous. C'est par des amis connus au sein d'une chorale que Jérôme Bobin a découvert la réalité des personnes vivant avec une limitation fonctionnelle. Au fil du temps, cette sensibilité mènera à un changement de carrière pour Jérôme. Après avoir travaillé quelques années au Luxembourg pour l'organisation Handicap International, il est venu à Montréal et a joint les rangs du chapitre canadien de l'organisme. Jérôme Bobin est maintenant le directeur de Handicap International Canada et c'est une organisation connue en particulier pour le combat qu'elle mène contre les mines antipersonnelles, les armes à sous-munitions et pour l'assistance aux personnes victimes de ses armes. En tant que cofondateur de la campagne internationale pour interdire les mines, l'organisation a d'ailleurs reçu le prix Nobel de la paix en 1997 et nous recevons M. Bobin tout de suite après. Jérôme Bobin, bienvenue dans nos studios.
Merci.
Très plaisir de vous recevoir ici. Une petite réaction sur le Népal, on va en parler en long et en large, mais je voudrais juste, une émotion de votre part.
Ça a été pour tous une grosse surprise. Pour moi, c'était un peu plus particulier. J'étais en Colombie, en train de revenir de Colombie, de visiter nos terrains, nos projets. Et puis j'étais à 4 heures de prendre l'avion pour rentrer ici. Et puis dans ces 4 heures-là, c'est les 4 heures où il faut réagir très rapidement. Il faut commencer à s'articuler avec nos autres bureaux à travers le monde pour déjà se mettre en place sur le terrain, mais informer aussi nos différents publics de ce qui se passe, de quels seront les besoins, quels sont les besoins. Donc ça a été un peu un retour de Colombie bouleversé entre deux avions.
Même si on savait, on parlait tous les gens qui sont allés au Népal étaient avertis, on va sans doute avoir un tremblement de terre, mais on peut jamais dire quand et quand.
On peut jamais dire quand. Et je crois qu'en fait, le Népal fait partie de cette fameuse ceinture, de feu sur laquelle beaucoup de tremblements de terre et de volcans peuvent interagir. Et il y a quelques jours avant, je lisais un article de quelqu'un qui avait l'air peut-être un peu illuminé, mais qui disait il y a beaucoup d'alertes en ce moment. Mmh. Il va y avoir un séisme, il va y avoir une grosse catastrophe. Mmh. Puis malheureusement, c'est ce qui est arrivé au Népal.
C'est ce qui est arrivé. Et bien, on en parlera tout à l'heure de l'aide qu'il faut encore apporter, les blessés, et puis essayer de faire en sorte que l'hémorragie ne soit pas si grande que ça, parce qu'il faut être sur le terrain et vous y êtes.
Ouais,
donc on en parle tout à l'heure. On va aller au début de votre carrière, de votre vie. Alors donc, on voit un petit accent français.
Certains disent belge, parce qu'en fait, j'ai travaillé et vécu en Belgique, donc j'ai presque pris un accent belge aussi.
C'est vrai, il est un peu arrondi, votre accent, comme on dit.
Donc on ne sait plus trop. Et puis dans quelques années, avec l'accent québécois qui se sera installé, ce sera totalement difficile de savoir d'où
il
vient.
Il va s'arrondir. De toute façon, à partir du moment qu'on part, on n'est plus jamais chez nous. Hein.
Non, voilà. Ou alors on est partout chez nous.
On est
ça
partout
dépend.
Chez nous, c'est ça. Mais les gens se posent la question, par exemple, quand vous retournez en France, vous avez un accent, est-ce qu'ils trouvent que vous avez un drôle d'accent maintenant?
Toujours le belge pour l'instant. Le belge
est
plus présent. Le québécois, pas encore. Il n'est pas installé. Alors, c'est les mots. C'est les mots que je peux utiliser.
Les expressions.
Voilà, les expressions puisées ici.
Qu'on a.
Voilà. ça commence à surprendre.
Et est-ce que vous vous en rendez compte que vous avez ces expressions-là?
Moi, de moins en moins, mais mes interlocuteurs français purs et durs, oui, s'étonnent un petit peu ou un petit temps d'arrêt pour comprendre.
Alors, on vous contamine dans le bon sens, comme on
Ah
dit.
oui, c'est une bonne contamination. J'en veux de celle-là, j'en veux bien.
Alors, vous étiez journaliste, pigiste, journaliste pigiste. Qu'est-ce qui s'est passé en tant qu'enfant, habitant en France, votre famille, quel genre de famille et quel genre de rêve vous aviez?
Alors, journaliste, ça a été une partie de ma carrière, mais ça n'a pas été la plus grosse partie. Enfant, mais je suis un enfant, je suis le quatrième d'une fratrie, donc le petit dernier d'une fratrie. J'ai deux sœurs aînées et un frère aîné, avec une maman qui nous a en partie élevés, pas toute seule, mais avec l'accompagnement d'un autre homme. Excusez-moi, je suis en train de retrouver mes mots. En fait, mon père naturel est décédé quand j'étais très jeune, et puis j'ai eu un second père un peu plus tard, mais ça a été une phase assez particulière de ma vie. Donc du coup, la fratrie, elle prend toute son importance, le fait d'avoir des frères et sœurs et plus grands que soi qui nous accompagnent pour grandir. Je suis né en France, en Vendée. Donc la Vendée, c'est une région dans l'ouest de la France, assez rurale, assez traditionnelle et assez réconfortante aussi, paisible, avec la mer pas loin, avec la campagne toujours aussi proche. Et donc j'ai pu bénéficier de ça. Et puis on a tout de suite allé en Touraine, les châteaux de la Loire en Touraine. Donc
Magnifique.
beau patrimoine historique, beau patrimoine aussi gastronomique avec la nourriture et le vin. Donc j'ai grandi dans cet univers-là jusqu'à un peu plus de 25 ans. Et puis après, j'ai décidé de partir justement vers le Luxembourg et la Belgique. C'est là où j'ai pris les premières notes d'accent belge pour une dizaine d'années avant d'arriver ici, dans notre belle province.
Alors, dans l'ordre, la Belgique et le Luxembourg, mais est-ce que vous étiez déjà journaliste, vous étiez étudiant ou ça se...
Non, j'ai d'abord été en France. Je travaillais dans le marketing, en fait, dans une société de transport. Donc finalement, qui n'a rien à voir avec mon métier actuel. Et c'est quand j'ai rejoint le Luxembourg et la Belgique que là, je suis devenu journaliste pigiste pour deux journaux, en fait, deux journaux francophones. Il faut savoir que le Luxembourg est un pays multilingue, donc on parle luxembourgeois, allemand et français. Et donc il y a des médias sur les différentes langues. Et donc moi, je suis allé travailler pour les médias francophones avec une spécialisation dans la culture et encore plus directement dans la danse contemporaine, qui n'est pas du tout mon bagage particulier, mais c'était à ce moment-là, en fait, le journal recherchait quelqu'un qui pouvait écrire et couvrir les événements de danse contemporaine.
Alors, c'est ce que vous avez fait. Le côté artistique chez vous s'est développé quand?
Alors avant, quand j'étais en France, ça s'est un peu aller-retour quand j'ai commencé à chanter finalement du gospel dans un groupe de gospel français pendant 6 belles années. Ça a coïncidé aussi avec le début de ma carrière professionnelle. Et puis là, j'ai rejoint un groupe de gospel et on a parcouru les églises de la région pour faire des mariages, parce que beaucoup de personnes aiment se marier avec des
Chant.
notes de gospel, des chants de gospel. Et puis des concerts que nous avons faits aussi, des disques. On a enregistré 3 disques au final. Et le groupe continue, hein, malgré. Moi, je n'en fais plus partie forcément, mais le groupe continue d'exister en France. Donc, mon contact artistique, il vient de là, en fait. Il vient de cet environnement-là.
Envie, mais pourquoi de bon, pas bifurquer, mais en fin de compte d'être allé dans le journalisme, vous auriez pu très bien dire, bon, moi, ça y est, moi, je gagne ma vie comme chanteur. Qu'est-ce qui a fait que ça...
Oh, parce que c'est pas si simple. Déjà, gagner sa vie comme chanteur, c'est pas évident. C'était loin d'être le cas de toute façon. Et puis, ça a coïncidé dans ma vie à un moment où j'avais envie de changer de carrière. Donc, je passais du marketing à autre chose. Et le journalisme, là, a été une belle occasion de pouvoir m'exprimer. C'est assez exceptionnel d'écrire des histoires, raconter des histoires, rencontrer des gens et témoigner de ce qu'on a vu. C'est quelque chose d'assez formidable. Pour moi, ça a été une expérience très enrichissante. Et surtout, comme j'étais nouvel arrivant au Luxembourg, ça a été instantanément une occasion pour moi de découvrir le pays, de découvrir qui sont ces gens, qui fait le pays. Donc le journalisme, pour ça, a été une vraie porte d'entrée d'intégration
Vous
au
avez
Luxembourg.
aimé les entrevues, l'écriture, qu'est-ce que vous aimiez le plus?
Les deux. aller chercher la personne à interviewer, aller essayer de trouver ce qu'elle ne veut pas spécialement nous dire ou ce qu'elle ne pense pas nous dire. Il n'y a jamais de machiavélisme, c'est juste que les gens ont besoin d'être orientés et le travail d'écriture, trouver les bons mots pour que le lecteur derrière soit emporté par ce qu'on est en train de lui expliquer. Ça a été très intéressant avec la pression. Que dans un journal, mais je pense que la radio c'est pareil, on a une date de bouclage, de clôture, il faut avoir produit, donc il faut à la fois faire de la qualité, quelque chose qui emmène, qui emporte, et puis produire à une heure, à une date limite. Donc ça a été un vrai, vrai bon moment dans ma vie.
Un bon moment. Il y a eu un autre Jérôme, quand même, qui s'est développé parce que c'est un contact de personnes en situation de handicap. Vous avez vraiment orienté votre autre carrière, finalement.
Justement, ce groupe de gospel en France, au sein de ce groupe, on avait différents choristes, dont deux qui étaient en situation de handicap. Et j'ai vécu à côté d'eux des événements absolument formidables. Et surtout, je me suis rendu compte à cette époque, il faut se remettre dans le contexte, j'avais entre 22 et 27 ans, j'ai vécu avec eux des choses que je n'aurais pas pensé qu'une personne en situation de handicap ou à mobilité réduite pouvait faire aussi bien que nous à cette époque-là. Donc ça m'a totalement ouvert les yeux sur la condition des personnes en situation de handicap, sur les amitiés qui pouvaient se lier, sur les talents que pouvaient avoir ces personnes en situation de handicap. Donc j'ai envie de dire, ça a connoté ma personnalité en France. Et puis quand je suis parti après au Luxembourg et en Belgique, au moment de chercher un nouveau travail, au-delà du journalisme, eh bien, très naturellement, je me suis orienté vers handicap international parce que c'était une sensation qui ne me faisait pas peur, une volonté de travailler avec ces personnes-là et pour les personnes en situation de handicap, sans aucune crainte, sans aucun frein.
Alors, on reparle de tout ça, bien évidemment, mais vous savez que vous faites le choix de vos musiques ici à l'émission. Vous avez choisi Favor, Maniwata, pourquoi?
Alors Maniwata, c'est le groupe de gospel justement dans lequel je chantais en France. Et il faut savoir que ce groupe était dirigé par Emmanuelle Penaud, qui était donc la chef de chœur, qui était aussi la chanteuse principale, le lead. Et ça a été vraiment une rencontre fondatrice dans ma vie, parce que cette personne finalement souffrait d'une maladie orpheline qui l'a emportée il y a quelques années. Mais jusqu'à son départ, elle a fait preuve d'une énergie telle, d'un enthousiasme, d'une mobilisation artistique et amicale, qui fait que j'avais envie aujourd'hui de lui donner l'occasion d'être diffusée sur des ondes et d'avoir le bonheur de l'entendre.
Alors, on l'écoute.
Fever, fever, when you kiss me, fever, when you hold me tight. Fever, on the morning, fever, all through the night.
Jérôme Bobin est avec nous en studio en direct. Il est donc le directeur général d'Handicap International Canada. Alors on est là dans le parcours de la vie, Luxembourg. Vous faites des rencontres et vous êtes sensibilisé parce qu'il y a dans la chorale des gens, des personnes handicapées. Mm-hmm. Et vous m'avez dit tout à l'heure, mais je vois déjà des choses qui ne sont pas faciles. Quelles sont les choses que vous avez vues qui n'étaient pas faciles pour eux?
Ah ben, c'est jamais facile de... La première chose, c'est l'accessibilité. Franchement, je sais qu'on est sur une station qui met en avant l'accessibilité, mais on ne se rend pas compte quand on est valide la chance qu'on a de pouvoir accéder à tous les endroits. Je me souviens notamment d'un concert qu'on avait fait avec des chanteuses de Chicago, donc des chanteuses américaines de Chicago, qui étaient dans une salle de concert dans un vieux prieuré, donc un site religieux. Sauf que pour accéder à la salle de concert, c'était un escalier de 25 marches étroit, et on avait quand même deux personnes en fauteuil roulant. Et on l'a fait. On est monté là-haut, on a porté et on a fait le concert, et ça a été un des plus beaux concerts. Donc ouais, les enjeux de personnes à mobilité réduite, ce grand défi d'accessibilité, et puis le deuxième, c'est le regard, changer le regard sur ces personnes. On pense a priori, quand je dis on, c'est plus moi, mais à l'époque, quand j'étais plus jeune peut-être, on pense que la personne n'est pas normale.
Les gens même parlent plus fort. Donc, voilà. C'est ridicule.
Des comportements adaptés, mais surjoués à une condition qui est finalement la même condition que nous tous, une condition d'être humain, sauf qu'il y a des stéréotypes qu'il faut combattre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à leur contact, donc ils s'appellent Sylvie et Philippe, hein, juste pour donner des noms, je me suis rendu compte que c'était pas non plus... ils en étaient conscients, ils se battaient tous les jours, mais c'était pas quelque chose qui les empêchait d'avancer. C'était au contraire quelque chose qui les renforçait, ce regard, ce comportement vis-à-vis d'eux. Et puis il faut aussi se rappeler que notre groupe de gospel et notre groupe d'amis étaient très rassurants, très enrobants.
Ouais. Passionnant aussi.
Voilà, ça nous élevait tous, eux comme nous, nous élevait vers que du bien et du positif.
Est-ce que Sylvie en parlait? Par exemple, vous parlez des marches des 25, là. Est-ce qu'elle disait non, moi je ne monte pas ça? Est-ce
non, était... ah non, absolument pas.
Ou elle cachait ça?
Non, pas du tout. Vous savez, ils ont fait, je crois me souvenir qu'ils ont fait aussi des vols en montgolfière. Rien ne les a jamais arrêtés. Ils arrivaient en voiture, en roulant. Ils descendaient même de leur voiture et remontaient dans leur fauteuil. C'est hallucinant. C'est hallucinant pour des gens qui n'ont pas à vivre ça tous les jours.
Oui.
Pour des gens valides. Mais non, aucun sentiment amer, aucune chose comme ça. La vie est difficile pour eux, c'est certain, mais c'est la vie. Et il faut continuer.
Alors, vous allez au Luxembourg, en Belgique. Comment est votre regard par rapport à ici? C'est-à-dire que quand vous êtes là-bas, est-ce que vous regardez que c'est difficile d'aller dans les cafés? Est-ce qu'il y a une sensibilité? Est-ce que vous trouvez que, justement, les personnes... En situation d'handicap sont bien traités en Europe?
Ça dépend. Moi, j'ai trouvé en arrivant ici au Québec qu'on voyait plus le handicap, on vivait plus avec le handicap au sein de notre société, au sein de nos rues, au sein de nos bâtiments, plus qu'au Luxembourg, par exemple. Mmh. Luxembourg, j'ai le sentiment que c'était un peu plus... dissimulés, beaucoup de personnes sont institutionalisées, il n'y a pas de vie de mixité de personnes valides et de personnes moins valides dans les rues, moins de mixité. Ici, ça a été quand même un de mes premiers constats. Alors je sais que tout n'est pas parfait en termes d'accessibilité, notamment à Montréal, mais quand même, je trouve qu'on partage l'espace commun, l'environnement commun avec beaucoup de personnes à mobilité réduite, et c'est très bien, c'est réjouissant.
Alors, on a fait des pas de géant, quoi qu'il reste encore beaucoup de travail à faire.
Il reste beaucoup de travail à faire de toute façon, mais je pense qu'il y a quand même une belle avance. Alors, je pense que les personnes en situation de handicap me diront, mais non, c'est pas assez, c'est pas suffisant, mais il y a quand même une belle avance en Amérique du Nord par rapport à l'Europe.
Alors, vous traversez, hein vous prenez l'océan, ça y est, et c'est le 30 décembre 2012. Pourquoi le Québec?
Je crois que ça m'a toujours attiré. J'ai des souvenirs de moi petit me disant j'irai au Canada. Donc, il faut bien se remettre en contexte que depuis la France, notamment, c'est le Canada,
oui,
c'est un
fait.
Ensemble.
Tout à fait.
Le Québec est une partie très agréable de ce Canada, mais c'est le Canada qui est le pays attirant. Donc moi, je me souviens, c'était le Canada ou l'Australie. Je ne sais pas si c'était les grands espaces, je ne sais pas si c'était la possibilité de parler anglais. Je ne sais pas ce qui, enfant, me donnait envie de m'évader vers ces grands espaces-là. Mais je sais que ça a toujours été présent. Et puis grandissant, quittant d'abord la Touraine pour aller au Luxembourg, je me suis rendu compte que finalement, vous savez, souvent les gens sont bloqués pour bouger parce qu'ils ont peur de perdre leur environnement familial, leurs amitiés, ce qu'ils ont créé à l'endroit qu'ils vont quitter. Mais finalement, on perd rien de tout ça. On garde
On s'enrichit.
on s'enrichit, on garde ce qui vaut la peine d'être gardé. Toutes les amitiés qui sont issues de France, qui sont issues de Luxembourg, de Belgique, elles sont toujours là, même si je suis parti. Donc, il faut absolument avoir aucun frein au départ. Et n'ayant aucun frein au départ, eh bien, ça donne une opportunité de choisir. Et j'ai eu le luxe de me dire, j'ai envie d'aller au Québec, à Montréal, qui pour moi est le.
Là,
Et
le
là,
Québec est venu dans votre vocabulaire, là,
voilà.
une fois traversé.
Voilà, parce qu'en fait, quand on réfléchit un petit peu plus entre le Canada, après on cherche où on veut s'installer.
C'est
Et
ça.
Montréal apparaît comme une ville idéale. J'étais déjà venu en tant que touriste 2 fois avant, plusieurs jours, et j'avais eu juste. Un énorme amour pour cette ville-là, on s'y sent bien. C'est assez difficilement explicable, mais c'est instantané, je trouve, le fait de se sentir bien dans les rues de Montréal. Je ne sais pas d'où ça
Est-ce que
vient.
vous vous sentez un peu comme chez vous, étant donné que c'est français, il y a un côté
Oh.
européen?
Ouais, mais l'architecture est quand même très différente. Oui, la langue est quand même un atout indéniable, mais on sait qu'on n'est pas du tout en France. L'architecture n'est pas du tout la même. Après, ça dépend. Quand on va rejoindre le vieux Montréal, on va retrouver des côtés français, mais le reste de la ville n'est pas du tout européenne pour moi.
Qu'est-ce qui vous a frappé quand vous êtes arrivé?
Alors, la première fois que je suis venu, pardon, en tant que touriste, c'était au mois de mai. Et je crois que en 48 heures, on a eu de la neige et on a eu trop chaud sur les vélos. Parce qu'on a fait le tour de la ville en vélo et il a fait très chaud, on avait les lunettes de soleil. Donc dans la même journée, on a eu un peu de neige le matin et très chaud l'après-midi.
Un peu les bottes aux pieds, puis le t-shirt en après-midi,
Voilà,
c'est
donc
ça.
ça c'est déjà. Mais c'est super
Et les
réjouissant.
gougounes en fin de journée.
C'est réjouissant parce qu'on se dit que finalement rien n'est éternel, tout change ici, c'est très, ça bouge tout le temps, donc c'est aucune situation et aucune mauvaise situation ne va durer. Après, ce qui m'a marqué quand on est arrivé en décembre 2012, c'est les 45 cm dans la rue avant d'arriver chez moi, et avec 2 valises et le taxi qui ne voulait pas rentrer dans la rue parce qu'elle n'avait pas été déneigée. 45 cm au Luxembourg, on n'a jamais ça, on n'a jamais eu ça. Donc
Ça,
là, on se dit, on est rendu.
c'est toute une arrivée, ça. C'est toute une arrivée. Alors, après, vous devenez coordinateur de la collecte des communications à Handicap International, et puis vous devenez après responsable des communications, toujours pour la mobilisation à handicap, et on sent que ça grimpe jusqu'à devenir finalement directeur général.
Tout à fait, depuis janvier 2014, donc ça va faire 1 an et demi maintenant. J'ai envie de dire, c'est une évolution presque normale. Je veux dire, ça s'est pas fait dans la violence, ça s'est fait traditionnellement, étape par étape. C'est vrai que ma première expérience avec Handicap International au Luxembourg, ça m'a permis pendant 7 ans de vraiment m'imprégner de tout ce que fait notre organisation. Avec une spécialisation sur les mines antipersonnelles et les bombes à sous-munitions. Donc j'ai eu la chance de participer à plusieurs conférences et à plusieurs visites terrain internationales pour voir de quoi on parlait et de voir quels étaient les dégâts de ces armes-là. Et ça aussi, ça, oui, c'est ce que je dis, ça imprègne. Handicap International, moi, je suis vraiment imprégné de la mission de notre organisation. Donc tout ça pour dire que c'est presque normal qu'après, quand un poste de direction s'ouvre, et qu'on a sous la main un collaborateur qui connaît bien l'organisation, qui connaît ses rouages, qui connaît son impact sur le terrain. C'est naturel que j'arrive à cette fonction-là maintenant.
Alors, un organisme qui a 30 ans, il faut le dire, 8 bureaux, mais
Oui.
qui dessert 60 pays.
Voilà. En fait, on est organisé avec 8 bureaux internationaux dans les pays, on va dire, du Nord, donc 2 en Amérique du Nord et 6 en Europe. Et ces 8 bureaux-là se coordonnent pour mettre en œuvre les 300 projets dans 60 pays dits du Sud, avec un gros focus sur l'Afrique et puis sur l'Asie du Sud-Est, qui est notre berceau, et puis de plus en plus tout ce qui est Amérique latine et Caraïbes.
Au Canada, le bureau est à Montréal.
Oui. Il a toujours été à Montréal depuis notre installation. On est installé au Canada depuis 2003.
Combien d'employés?
Alors, actuellement, on est 7 employés, donc c'est un petit bureau. On a été un peu plus, vous savez, ça dépend aussi des besoins, des opérations en cours. C'est sûr que l'avenir pour Handicap International au Canada, c'est de regarder un peu plus directement sur l'Ouest canadien. On est une organisation très francophone, très centré sur le Québec, mais notre volonté, c'est de permettre aux Canadiens dans leur ensemble d'être en contact avec nos enjeux et de supporter finalement les projets qu'on mène sur le terrain.
Alors, on fait une pause, on revient tout de suite après, on va parler justement de votre mission.
Gens qui font la différence. Voici Sophie Stanquet.
En compagnie de Jérôme Bobin, directeur général d'Handicap International. Handicap International est un organisme qui est non gouvernemental et indépendant. C'est connu en particulier pour le combat que vous menez sur les mines antipersonnelles, les armes sous munitions, et surtout pour l'assistance aux personnes victimes de ces armes. Parlez-moi justement de cette campagne. Vous m'avez dit, les mines antipersonnelles, vous êtes même allé sur le terrain. Racontez comment ça se passe. Et c'est quoi le portrait?
Alors, les mines antipersonnelles, c'est vraiment dans les gènes de Handicap International. Handicap International est né, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une trentaine d'années, auprès des réfugiés cambodgiens qui fuyaient le Cambodge. Il y avait le conflit des Khmers rouges et qui fuyaient vers la Thaïlande. Sauf que la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande était polluée de mines antipersonnelles. Donc, beaucoup de personnes ont explosé sur ces armes-là et se sont retrouvées dans les camps de réfugiés amputées. Et nos fondateurs, à l'époque, qui travaillaient pour Médecins sans frontières, donc vous voyez que c'est en fait une famille, une
C'est
grande
relié,
famille,
quoi. Oui, mais c'est bien, tout le monde travaille ensemble.
voilà,
Ouais.
se sont trouvés confrontés à ce public-là, et personne ne savait venir en aide à ces personnes amputées, notamment parce qu'à l'époque, on pensait qu'il fallait faire venir du matériel d'Europe, donc ça coûtait très cher, donc on préférait finalement ne pas dépenser l'argent dans faire venir ce matériel, et on oubliait une partie de cette population. Donc nous, nos fondateurs ont décidé, il y avait du bambou, il y avait du cuir, il y avait des matériels à disposition. On va un peu, on va pas rester accroché aux standards européens de l'appareillage, et on va faire de l'appareillage pour permettre d'abord à ces personnes-là de se remettre debout, de sortir de leur tente, de sortir de leur lit et de se remettre droit sur leurs pieds. Ça peut paraître rêveur ou doux rêveur comme envie, mais c'était ça. C'est ce qui a,
C'est la mission première.
c'est la mission première. Et ça a pris de l'ampleur, et c'est pour ça que maintenant on est beaucoup plus. On a toujours gardé cette idée de remettre les personnes debout. Alors debout, soit vraiment debout, soit debout dans la tête.
Moralement.
Voilà, debout moralement. Mais il est sûr que maintenant on s'occupe de tout un tas d'autres personnes et pas seulement les victimes de mines antipersonnelles. Mais on a gardé cet intérêt-là parce qu'on s'est très vite rendu compte que aider les personnes, c'était bien, mais il fallait couper et arrêter le problème à sa source. Il fallait arrêter le fléau des mines antipersonnelles parce qu'on pouvait très bien continuer à appareiller. Si les mines continuaient d'être utilisées, c'était comme un robinet qui
C'est
s'arrête
toujours à
jamais.
refaire, et
Voilà.
finalement, ouais.
Donc on s'est lancé assez rapidement, au début des années 90, dans la création d'une coalition, la campagne internationale pour interdire les mines. avec d'autres partenaires. Ils étaient 5 avec Handicap International. Et cette campagne a été une des premières campagnes internationales à réclamer aux États de faire un traité international qui interdirait ces armes-là. C'est ce qu'on a appelé le traité d'Ottawa. Donc le Canada était au premier plan.
Rôle.
Voilà. Et le traité d'Ottawa qui, en 1997, a été signé et qui a commencé à rentrer en vigueur après en 1999. Et 20 ans après, presque un peu moins de 20 ans après, quasiment tous les pays du monde, pas tous, mais ont signé ce traité. Il y a beaucoup moins d'utilisation de mines antipersonnelles. Il y a beaucoup moins, voire plus du tout, de production de mines antipersonnelles. On est toujours confronté aux terrains qui sont pollués parce que, par exemple, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, il y a encore des mines. Ça date des années 70.
Ouais.
Mais par contre, c'est vrai que le robinet des mines antipersonnelles, c'est quand même largement réduit.
Mais il y a quand même une pétition parce que les choses ne sont pas toutes faites.
Tant que 100% des États n'auront
c'est
pas
ça.
Rejoint ça, on a toujours des risques. Et puis on le voit aussi actuellement en Syrie, par exemple, les groupes armés qui ne sont pas des États n'ont pas signé ces traités-là, donc utilisent encore ces armes, des stocks qui restent un peu fantômes et qui sont au marché noir et qui sont vendus à des groupes plus ou moins terroristes. Donc l'arme existe toujours. Mais c'est beaucoup moins institutionnalisé qu'à l'époque, quand c'était les pays qui se donnaient encore le droit de les utiliser.
Alors, il y a encore beaucoup de travail, une pétition. J'aimerais bien que, si les gens ont envie de signer, il faut agir. Comment on fait, si on écoute l'émission aujourd'hui, pour dire, les gens trouvent ça incroyable qu'ils cueillent encore des armes.
Alors, la pétition, on peut de toute façon la retrouver sur notre site internet,
oui.
www.handicap-international.ca, dans la partie « À vous d'agir ». Pourquoi des pétitions ? Il faut se souvenir que ces traités-là, ces traités d'interdiction internationaux, finalement, ils n'ont de légitimité que quand les publics nous soutiennent. Mm-hmm. Et la pétition est un moyen pour que les organisations comme nous puissent aller voir les gouvernements en disant « mais c'est pas Handicap qui vous dit ça, c'est les 10 000, 100 000, 1 million de personnes qui ont signé. » Et c'est pour ça que c'est très important. Ça peut paraître désuet de signer des pétitions, mais finalement non, parce que c'est la manifestation de la volonté du peuple.
Mm-hmm.
Et donc ça aide vraiment.
Et qui fait bouger les politiques, bien souvent. Les pays, il y en a beaucoup, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Il y a des catastrophes, malheureusement, qui arrivent. Notamment, vous étiez très, très présent pour Haïti. Mm. C'est pas rien, 200 000 personnes. Ça a été épouvantable en 45 secondes. Toujours un chiffre tout petit pour le nombre de ravages. Mm. Difficile. Est-ce qu'il y a des gens encore sur place en Haïti d'handicap international.
Oui, on est toujours sur place. On y était même avant le séisme parce qu'en fait, Haïti souffrait de crises chroniques et notamment en termes de catastrophes naturelles. Haïti a beaucoup été défriché. Il y a plus beaucoup d'arbres et finalement, quand il pleut, il y a des glissements de terrain.
Ouais.
Et nous, on était en 2010, enfin plutôt fin 2009, présents avec une flotte de camions parce qu'Handicap International fait aussi de la logistique humanitaire. Pour réparer un petit peu, ramener des biens, des denrées humanitaires dans des zones qui avaient été touchées par ces glissements de terrain. Et c'est en fait notre première intervention après le 12 janvier 2010, ça a été de mettre à disposition nos camions pour les autorités locales, pour les humanitaires qui étaient présents, pour pouvoir transférer les premiers produits de première nécessité. Et très rapidement, on a embrayé sur l'appareillage, la physiothérapie, parce que Haïti, contrairement au Népal actuellement, on a eu beaucoup plus d'écrasements finalement, parce que les buildings étaient en béton à Port-au-Prince.
Mmh.
Et donc du coup, ça a généré beaucoup plus d'écrasements et d'amputations.
Énormément d'amputations.
Voilà.
Le chiffre est très, très élevé. Les gens
c'est toujours difficile à calculer, mais les estimations officielles vont jusqu'à 4 000.
Oui, c'est ça.
Mais c'est très différent par rapport au Népal parce que la construction n'était pas du tout faite de la même façon. C'est plus du bois et des briques, donc plus léger, donc des fractures, mais pas d'écrasement, donc pas d'amputation. Donc la réponse n'est pas totalement la même entre le Népal et Haïti. Pour revenir sur Haïti, on y est toujours depuis 2010. On est passé dans une phase qu'on appelle, nous, de développement, c'est-à-dire une fois l'urgence et les plaies soignées, dans tous les sens du terme, là, on essaye de faire en sorte que le pays se redéveloppe harmonieusement. Et harmonieusement, ça veut dire avec les personnes en situation de handicap, ce qui n'était pas une mince affaire forcément, parce que dans l'esprit des Haïtiens, le handicap est quand même quelque chose, était quelque chose de mal accepté. Sauf que la société haïtienne a dû se réveiller le lendemain avec une nouvelle population de personnes en situation de handicap qu'il fallait bien accueillir. Mmh. Donc les choses ont déjà commencé à changer. Les mentalités des Haïtiens vis-à-vis du handicap ont changé comme une conséquence peut-être positive de cette catastrophe terrible.
Et est-ce qu'on construit en les inclusant, je veux dire, avec ce nouveau paysage, est-ce qu'on y pense quand dans les nouvelles constructions en
oui,
Haïti, parce
oui,
que
oui.
C'est pas facile.
Oui, mais rien ne se fait parce qu'en plus il y a des personnalités haïtiennes du monde du handicap qui ont pris le devant de la scène pendant cette crise et après cette crise, et c'est une vraie volonté des autorités haïtiennes d'intégrer le handicap, la mobilité réduite dans la reconstruction.
Alors, on fait une pause musicale, on reste avec vous, mais en chanson cette fois, mais c'est pas vous qui allez chanter, à moins que ça soit... Non ?
Pas sur ce morceau.
Pas sur ce morceau, d'accord. Les voies ferrées, la recette de l'amour fou. Ah, c'est Gainsbourg.
Oui.
Jérôme Bobin, directeur général d'Handicap International, est avec nous. On parlait justement de cette belle chanson, Les Voies Ferrées. Alors, racontez un petit peu qui ils sont et est-ce qu'il y aura des spectacles.
Oui, moi je suis très chanceux. Tiens, vous voyez, je parle québécois. Je suis chanceux, j'ai plusieurs familles dans ma vie. Et Les Voies Ferrées, c'est une famille, une de mes petites familles ici québécoises. C'est un groupe que sûrement plusieurs connaissent, vu que ça va bientôt faire 25 ans que Les Voies Ferrées existent. Une cinquantaine de choristes, tous un peu plus fous les uns que les autres de la musique, du bonheur de chanter ensemble et de mélanger nos voix. Et ça fait 2 ans, c'est la deuxième saison que je vis avec Les Voies Ferrées, qui à chaque saison propose en effet un concert de fin de saison. Donc cette année, ce sera à l'église du Jésus. C'est comme ça,
oui.
Jésus, les 29 et 30
Jésus.
Mai. Jésus, j'ai eu un doute entre Gésus et Jésus.
Et Jésus.
Les 29 et 30 mai, c'est un spectacle qui va s'appeler Chute. Parce qu'en fait, il va se passer dans un univers d'endormissement, de sommeil, de réveil, de sommeil agité. Et ça va vraiment être une belle expérience avec une mise en scène aussi très particulière, avec des marionnettes en plus du chœur, donc de 50 choristes. Et ça, c'est un vrai bonheur tous les mardis de les retrouver pour nos pratiques au cœur du Parc La Fontaine. Vous le savez, on en a parlé, on va en parler. Handicap International a certes une belle mission, mais malheureusement sur des enjeux qui sont assez lourds, qui sont difficiles. Et du coup,
c'est un peu votre oxygène.
Voilà,
hein,
le gospel en France est maintenant quelque chose, un répertoire beaucoup plus éclectique pour les voix ferrées. Il peut y avoir du gospel, il y a du Gainsbourg, il y a du québécois, beaucoup d'artistes québécois qui sont repris et arrangés par nos artistes maison aux voies ferrées, mais c'est vrai, une vraie bouffée d'oxygène.
Alors oui, justement, vous parlez d'handicap international, urgence humanitaire, mines et bombes et sous-munitions, réadaptation, prévention également, et santé des maladies invalidantes, soutien psychologique. Vous êtes là, vous ouvrez même physiquement les voies sur des chemins pour éviter qu'il y ait plus de dommages. Les mines antipersonnelles, vous revenez de Colombie, qu'est-ce que vous avez vu?
Oui, alors la Colombie, c'est le deuxième pays le plus affecté au monde par les mines antipersonnelles. C'est un héritage du conflit entre les FARC et les autorités colombiennes. Pas seulement les FARC, il y a d'autres groupes armés en Colombie et ça fait 50 ans finalement que tout ça laisse des traces et laisse des mines antipersonnelles dans les terrains. Pour Handicap International Canada, c'est un pays important parce qu'on est actif grâce à des financements canadiens là-bas depuis 2012 en assistance aux victimes. Donc on accompagne les personnes qui ont explosé malheureusement sur ces mines, les personnes et leur entourage. Il ne faut jamais sous-estimer qu'on parle bien évidemment de la victime directe, mais quand une personne est touchée, c'est toute la famille qui est touchée. Donc on accompagne ces personnes-là avec une belle perspective en Colombie, c'est de commencer à faire du déminage humanitaire, ce qui n'était pas possible jusqu'à maintenant, car on était encore dans une zone de conflit, donc l'armée colombienne était très présente, mais il y a des processus, des pourparlers de paix en ce moment qui avancent bon train, et on espère que dans les prochains mois, on puisse enfin activer nos opérations de déminage là-bas. Car une fois de plus, comme on l'a dit en début d'émission, soigner, accompagner les victimes, c'est une chose, c'est nécessaire, mais il faut aussi éviter qu'il y ait des nouvelles victimes. Et ça passe par le déminage humanitaire, par l'éducation au risque aussi, aller dans les communautés, expliquer que quand on voit tel ou tel type d'objet ou tel type de situation, on ne s'approche pas, on marque l'endroit pour que des professionnels viennent regarder ce qui s'y passe.
Donc la prévention. Le samedi 25 avril, un violent tremblement de terre a frappé le Népal et provoquant plus de... On est presque rendu à 7000, je pense.
Oui, 7000. On a dépassé 7000. Les 7000 personnes décédées et le double de personnes blessées.
14000. 14000 personnes blessées. Vous avez plus de 50 personnes, je pense, sur place. Qu'est-ce qu'on fait? Dans combien de temps vous arrivez en général? Et quelle est la situation?
Alors déjà, au Népal, ça fait 15 ans que Handicap International intervient et on était auprès des centres de réadaptation fonctionnelle, donc déjà pour accompagner les personnes en situation de handicap. Et qu'est-ce qui s'est passé très concrètement? C'est qu'en effet, ces 50 personnes, donc sur ces 50 personnes, on a 45 à peu près qui sont des Népalais et puis 5 expatriés. L'équipe partait au moment du séisme pour un tournoi de foot, inter-association humanitaire, quelque chose pour un peu prendre l'air. Et sauf que quand c'est arrivé, ils ont tout de suite arrêté ce qu'ils avaient prévu et ils ont commencé à aider les hôpitaux, aider les secours, prendre en charge les blessés, parce que l'important pour nous, c'est vraiment de prendre en charge le plus rapidement possible une blessure pour éviter que ça se transforme en handicap permanent.
Voilà.
Le handicap permanent va...
Amputation,
mais même perte de l'usage d'un membre, même sans besoin de l'amputer, ça va devenir pour après la société népalaise quelque chose de très dur à gérer. Donc il faut au maximum limiter ces handicaps-là. Donc c'est ce qu'on a commencé à faire depuis le Népal. En parallèle, comme on est une organisation, comme on l'a dit tout à l'heure, installée dans différents pays, On a mobilisé d'autres équipes, des physiothérapeutes, des spécialistes de l'urgence et de la logistique en Europe et puis aussi en Amérique du Nord pour les envoyer en renfort là-bas. Parce qu'il ne faut pas non plus sous-estimer que l'équipe sur place, il faut la relayer. Personne ne travaille 24 heures sur 24, surtout dans cette situation.
Dans des conditions, il n'y a pas d'eau, je veux dire, c'est...
Et puis de stress énorme, parce que les secousses sont revenues encore longtemps, les jours après la première secousse.
Il y en a encore, je pense, il y a des secousses, oui.
Et ça, bon, pour les Népalais victimes, c'est quelque chose d'affreux en termes mentaux, de santé mentale, mais pour les aidants aussi. C'est quand même quelque chose de compliqué. Donc, il faut gérer cette fatigue-là, qui est une fatigue bien naturelle, mais il faut la gérer. C'est pour ça qu'on a eu besoin d'envoyer des renforts. Nous avons aussi envoyé du matériel, donc typiquement des fauteuils roulants, des béquilles, des prothèses d'urgence pour pouvoir appareiller. Après la gestion de la blessure, appareiller la personne blessée. Et puis, on s'oriente maintenant sur la même chose qu'on avait fait en Haïti, c'est-à-dire une plateforme logistique, une flotte de camions qui pourront aller dans les districts les plus isolés, parce qu'on a beaucoup parlé de Katmandou, mais Katmandou, c'est qu'une partie du problème. Il y a eu tout autour de Katmandou où l'aide est encore très difficile à accéder. Et donc, nous, on va tenter de faciliter le travail de nos confrères humanitaires en mettant à leur disposition la flotte et le savoir-faire en termes de logistique.
Quelque chose de positif, si on peut voir ça comme ça. Vous disiez tout à l'heure, vous compariez Haïti au niveau de l'architecture et au Népal, le fait que ça ne soit pas en béton, au Népal, que ce soit en bois, c'est un petit peu mieux parce qu'il y a moins de blessures graves, c'est ça?
Voilà, oui. Le matériel, les matériaux utilisés pour la construction sont plus légers. Donc finalement, l'impact sur l'individu est moins pire, enfin, est moins important qu'en Haïti. À l'inverse, le Népal est un pays très montagneux, déjà difficile d'accès en temps normal, mais maintenant, les secours, le transport des secours est quand même très difficile, ce qu'on avait peut-être un peu moins sur Haïti, parce que le contexte était différent, géographie est différente.
Comment vous trouvez que l'international réagit? On a vu que pour Haïti, ici, c'était incroyable, les gens en donnaient beaucoup. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un élan à ce niveau-là? C'est lent, c'est... J'ai l'impression que les politiques, c'est très long. Hein. Ça a pris du temps avant de réagir.
Les politiques, peut-être, mais je trouve que le public canadien, en tous les cas, les médias canadiens ont été très réactifs, ce qui n'était pas forcément sûr, finalement, parce que le Népal reste très loin de nos préoccupations. Haïti, c'est normal. Haïti, c'est pas loin.
Grande diaspora.
C'est sur le même continent. Ça nous touche et ça nous touche au cœur. Je ne dis pas que le Népal ne nous touche pas au cœur, mais plus on est loin, moins on se sent concerné. Et là, non, concrètement et très honnêtement, je trouve qu'il y a une belle réaction du public canadien et d'un océan à l'autre. Hein, parce qu'on a notamment des personnes de Vancouver qui nous ont appelés très rapidement pour organiser une levée de fonds pour faciliter en fait nos travaux en termes de lésions médulaires, donc la colonne vertébrale, pour éviter que des liaisons de la colonne vertébrale ne dégénèrent. Donc,
alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On vous dit qu'on est loin, mais on peut faire quelque chose via votre organisme. On est un petit peu démunis. On se dit, bon, on voudrait aider. Et est-ce qu'on peut faire un don? Qu'est-ce qui manque en ce moment? Qu'est-ce qui vous manque?
Alors, c'est normal. En fait, les organismes comme les nôtres existent justement parce que nous, on a l'expertise et les moyens d'intervenir sur le terrain. Donc, c'est vrai que nous, notre besoin vis-à-vis du public canadien, c'est des fonds. C'est des fonds pour pouvoir mettre en œuvre nos activités, payer les physiothérapeutes qui sont envoyés là-bas, payer les transports, payer la marchandise. Ça peut paraître un peu bête de dire ça, mais finalement, l'argent est nécessaire pour mettre en œuvre nos projets sur le terrain. Après, beaucoup de personnes nous contactent en disant « Est-ce que je peux aller aider? Est-ce que je peux partir une semaine, deux semaines, aller donner un coup de main ?» C'est charitable, c'est très bien, mais seulement, c'est pas forcément là le moment. Le moment là, il est tenu par des professionnels de l'urgence, par les militaires népalais aussi qui aident. Et rajouter des gens inexpérimentés sur ce type de crise, c'est pas un cadeau qu'on fait, au Népal.
Ça va ralentir, comme on dit, les opérations. Et aussi, les gens qui écoutent l'émission, peuvent faire partie de l'équipe sportive 2015 de Handicap International aussi.
Ah oui, le défi sportif. Oui, on a sur notre site, en effet, Sur le site, on a plusieurs collectes de fonds, donc les gens peuvent donner spécifiquement pour le Népal, ou en effet s'inscrire dans notre équipe des filles sportives, donc pour manifester à la fois leur soutien physique à ce qui est en train d'arriver, et puis collecter des fonds pour mener nos actions.
Petite pause musicale, on revient avec le jeu questionnaire à la fin de l'émission. Jérôme Bobin, quelles sont les personnes qui vous ont inspiré ?
Ah, j'aime bien les pionniers. Moi, j'ai une tendresse particulière pour Christophe Colomb qui est parti à l'aventure, justement, à la conquête de l'Ouest.
Vos mentors ?
Ah, mes mentors, ils sont pas connus. Mes mentors, c'est les gens qui m'ont accompagné tout au long de ma carrière, mes premiers responsables, mes directeurs qui m'ont montré le chemin quand j'ai commencé à travailler à 20 ans, qui m'ont expliqué ce qu'il fallait faire pour être quelqu'un de bien.
Les livres que vous nous recommandez.
J'ai bien aimé toutes les premiers romans de Marc Lévy. Au début, ça a vraiment participé à ma capacité d'émerveillement. J'aime bien aussi, forcément, je suis un adepte de Harry Potter, donc J.K. Rowling. Et puis ici, de Dan Robillard et toute la série Les Chevaliers d'Émeraude ou même la série Ange. Je trouve que c'est très agréable pour s'évader, justement.
Et les artistes que vous aimez?
Michael Jackson.
Et les villes que vous nous recommandez.
Ah, elles sont tellement nombreuses. Pardon, j'ai la chance de voyager beaucoup pour mon travail, mais aller en Indonésie, aller en Asie du Sud-Est, Bangkok, aller à Los Angeles aussi, si on revient dans notre continent. Los Angeles est une ville très agréable. Aller à Medellín en Colombie, aller partout. L'important, c'est de bouger et c'est de découvrir les autres.
Merci beaucoup, Jérôme Bobin. Merci
Merci à
infiniment.
vous.
Et puis, on va sur votre site si on veut faire un don.
Oui, merci beaucoup.
Merci, merci à mon équipe mise en onde aujourd'hui. Ils sont deux, Jean-Sébastien Laliberté et Mathieu Tessier. Et puis, à la recherche, Christiane Campagna. Et aux médias sociaux, Kevin Breton. C'est Sophie Stanquet, pardon, qui vous parle. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.